Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ma crypte. Je suis Dan, et vous écoutez Creepy Story, épisode 38. Ce soir, mes chers amis, je vous ai concocté deux histoires lugubres à souhait. Vous êtes prêts? Alors blottissez-vous confortablement dans votre fauteuil et délectez-vous de ce conte horrifique que j'ai intitulé « Le plus grand écrivain du monde ». Elle était la femme du plus grand écrivain du monde. Elle était toujours dans son ombre. Lui, la star, elle, juste sa femme. Toujours derrière lui, comme une ombre. Son ombre. L'ombre de l'artiste. Celui qui était best-seller à chaque parution d'un nouveau livre. Elle, elle était l'ombre de Stephen Quinn. Son premier livre, Marie, racontait l'histoire d'une jeune fille au pouvoir extraordinaire. Puis vint Rex et son chien meurtrier. Chrysler, la voiture douée d'une âme. Il, créature infernale qui terrorise les enfants. C'est avec ce dernier livre qu'elle et Stephen étaient devenus riches, très riches. Il écrivit La ligne rouge qui fut un succès mondial. Hollywood se rapprocha de lui pour adapter ses romans au cinéma. Et là, ils devinrent millionnaires. Plus riches que riches. Tandis qu'elle devenait de plus en plus invisible. Elle n'était que sa femme, après tout. C'était lui le génie, l'artiste. Et puis, il écrivit Mr. Ferrari. Un polar, lui qui n'écrivait que des romans horrifiques ou fantastiques. Ce dernier livre, qui nommé par la critique comme son plus mauvais récit, lui fit l'effet d'une bombe. Il sombra dans la dépression. Elle était là quand il l'a écrit. Elle était là aussi quand il s'est fait descendre par les médias. Elle était encore là pour lui remonter le moral, et là aussi quand il a décidé de rebondir. Toujours là pour lui. Toujours là, mais invisible pour les autres. La femme du génie, la femme du dépressif. Ils décidèrent de déménager et s'installèrent à Castlestone, une petite ville près du Maine. Là, Stephen décida d'écrire son nouveau roman, et pour être sûr de garder les pieds sur terre, après sa descente aux enfers médiatiques, il prit un pseudo pour l'écrire. Lorsque le roman sortit sous le nom d'auteur de Richard Wackman, ce fut un carton planétaire. Mystery marqua son grand retour sur les étagères des librairies. Il sortit 5 autres livres sous ce pseudo, avant de révéler au public que Richard Wackman et Stephen Quinn étaient la même personne. Il était devenu une légende aux yeux de tous, une icône. Et elle, toujours invisible. Derrière lui, derrière sa carrure imposante et son ego démesuré. Lui l'artiste, lui le génie. Alors un soir, elle prit une de ses bouteilles de bourbon qu'il adorait tant. Et elle but la totalité du flacon. Elle était saoule. Lui participait à une séance de lecture pour l'adaptation de Mystery au cinéma, à New York. Elle était ivre. Elle qui ne buvait jamais. Elle s'installa derrière le bureau de son génie de mari. Devant sa machine à écrire fétiche, celle qui l'avait rendue riche et elle transparente. Elle y glissa une feuille, prit au hasard, et dans une rage folle et non contrôlée, écrivit en frappant de toutes ses forces sur les touches d'ébène de l'appareil. « J'aurais préféré que tu n'aies jamais existé. Toi, tes adorateurs et tes histoires, plutôt que de me sentir si seul et invisible. » Elle se calma aussitôt. Elle se dit que c'était stupide et elle arracha la feuille de la machine pour la jeter dans la corbeille au pied du bureau d'acajou hors de prix. Elle posa sa tête entre ses bras et s'endormit paisiblement, profondément. Le lendemain, elle se réveilla, vaseuse, la tête prise dans un étau chauffé à blanc. Son génie de mari était devant elle, une tasse de café corsé dans la main. Il but une bonne gorgée avant de lui tendre la tasse pour qu'elle la finisse. Quelle chance! Elle pouvait avoir les restes. Ses restes. Il lui demanda de quitter son bureau. Il avait rendez-vous avec ses fans sur son Discord. Maudits soient-ils tous! Le gourou allait prêcher la bonne parole à ses adeptes. Les seuls qui l'écoutaient à présent. Elle retourna à sa vie de femme d'artiste, de génie. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, chers auditeurs, mais une semaine plus tard, la bande d'encre de la machine à écrire de Stephen dut être changée. Un événement somme toute anodin. Pour qui écrit encore avec une machine à écrire? Mais cette fois, ce simple geste allait entraîner quelque chose de plus grand, de plus sombre, de plus terrible. Quelque chose que même le grand Stephen Quinn lui-même n'aurait jamais pu imaginer dans un de ses livres. Lorsqu'il eut fini de retirer la bobine de ruban encreur et qu'il la jeta dans la corbeille de son bureau, elle fut amortie par une petite boulette de papier froissé déposée là une semaine plus tôt. Il installa le nouveau ruban dans la machine. Il jeta un coup d'œil à ses mains. L'extrémité de ses doigts était recouverte d'encre noire. Il se leva et alla se laver les mains. À sa grande surprise, l'encre resta solidement accrochée à ses doigts. Il se dit que tant pis, ça partira bien un jour ou l'autre. Mais même après une semaine, l'encre était toujours visible sur ses mains. Et à bien y regarder, elle commençait à s'étendre. Elle prenait de plus en plus de place. Un mois passa et la totalité de ses doigts était noire d'encre. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne partait pas. Il avait pourtant tout essayé. Savon, essence, alcool, térébenthine, white spirit. Il avait beau frotter comme un forcené, mais ça ne partait pas. Ses mains étaient parsemées de petites coupures qui le faisaient souffrir, à force de frotter. Il alla chez le médecin pour avoir un avis médical. Le docteur qui l'ausculta ne trouva pas de solution à son problème. Et puis, en regardant de plus près ses mains à la loupe, le médecin eut un petit recul de surprise. Là, sur la paume et le dos de chaque main, il pouvait apercevoir des lettres. De minuscules petites lettres noires, éparpillées un peu partout sur la peau de Stephen. Il regarda longuement l'auteur et lui donna de la crème pour apaiser ses cicatrices. Pour le reste, il ne put rien faire. Une fois chez lui, l'écrivain de génie montra ses mains à sa femme. Pour le rassurer, elle le réconforta. Elle lui frictionna les mains avec la crème. Deux jours plus tard, les petites lettres avaient envahi ses avant-bras. Une semaine de plus, et c'est son torse et son cou qui étaient maintenant recouverts de petites lettres noires, comme tatouées à l'encre de machine à écrire. Un mois passa, et la totalité de son corps hébergeait des lettres de l'alphabet. Il n'osait plus sortir, ni voir qui que ce soit. Son malheur faisait le bonheur de sa femme, qui à présent l'avait pour elle toute seule. Plus d'éditeur, de séances de lecture, de rendez-vous Discord ou de fans venant frapper à la porte de leur maison afin d'avoir une dédicace. Mais son bonheur fut de courte durée. Stephen Quinn, le plus grand auteur du monde, commença à dépérir, à devenir de plus en plus faible. Son visage marqué par une extrême fatigue qui augmentait jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se lever, marcher ou même manger. Il savait que son heure était venue. Elle aussi le sentait, c'était dans l'air, comme une odeur de papier moisi, vieilli, parcheminé par le temps. La lumière et l'air. Il était là devant elle, allongé sur le lit marital, ne pesant plus que 30 kilos pour ses 1m90. Le visage creusé, les côtes apparentes et surtout des milliers, des millions, des milliards de lettres recouvrant son corps jusqu'au blanc de ses yeux, noircis par des mots. Ou sa langue, son palais, ou la totalité de ses dents. Sa femme se rapprocha de lui, sentant ses dernières minutes venir. Elle s'assit près de lui, sur le lit, et lui caressa son visage. Une larme perla sur sa joue gauche quand elle sentit sous ses mains douces la texture écailleuse et fripée de la peau de son artiste de mari, comme celle d'un ancien grimoire moyenâgeux. Elle se rapprocha de son visage pour lui déposer un baiser sur le front, malgré son léger dégoût à la vue de l'état de sa peau. Puis elle fronça les yeux, au moment où elle percuta que toutes les lettres inscrites sur le corps de son mari formaient une phrase. Une seule et unique phrase qui se répétait encore et encore sur tout son corps flétri. Cette phrase, qu'elle avait fait surgir du plus profond de son être, alors qu'elle était très mal, cette phrase qu'elle avait oubliée pour rester invisible derrière son génie d'artiste, d'écrivain, de mari. « J'aurais préféré que tu n'aies jamais existé, toi, tes adorateurs et tes histoires, plutôt que de me sentir si seul et invisible. » Elle vérifia le reste de son corps malingre allongé sur le lit. La même phrase, tout le temps, partout. Elle explosa en sanglots, se sentant coupable de son sort, et le prit dans ses bras. Elle le serrait si fort quand elle entendit un son, mélange d'un craquement et de l'explosion d'une grosse bulle de plastique. Tout le corps de Stephen céda, se dispersa en un million de pages de livres jaunes et froissés qui recouvrit le lit et le parquet de chêne massif qu'il s'était offert avec la vente de sa saga des Tours Noires. Le lendemain, une vague de décès frappa des hommes et des femmes de toute la planète. Toutes et tous furent frappés par un fléau d'une envergure apocalyptique. Le même fléau qui avait causé la disparition de Stephen Quinn. Un fléau qui divisa le monde en deux parties. Ceux qui l'adoraient et les autres. Car oui, selon les médias, toutes les personnes qui connurent le même sort que Stephen Quinn et qui disparurent dans un tourbillon de pages flétries et parcheminées étaient tous de vrais et incontestables fans ou adorateurs du plus grand écrivain du monde. J'espère, mes chers amateurs de frissons, que vous avez apprécié cette histoire qui, je dois vous avouer, est, comme vous avez sûrement pu le remarquer, très inspirée d'un auteur de romans très très connu. J'espère qu'il ne subira pas le même sort. Si vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Passons, si vous le voulez bien, à la deuxième histoire. Elle fait partie de mon cycle Lovecraft. J'ai appelé cette histoire... Le grattement. La première fois que j'ai entendu le bruit, c'était à la maison. J'étais assis dans le canapé du salon. Je lisais un truc que Marc, notre voisin, m'a conseillé. Une sorte de comédie romantique, écrit par un faiseur de best-seller à la mode. C'était un roman pompeux et ennuyant. Il aimait lire ce genre de livre depuis la mort de sa femme. J'ai très vite laissé tomber. Au début, c'était très lointain, comme étouffé. J'ai cru que c'était un voisin qui passait la tondeuse dans son jardin. J'ai très vite repris une activité normale, et j'ai complètement oublié le bruit. Linda était à l'étage pour se préparer à partir pour son cours d'aquagym prénatal. Elle venait de se réveiller d'une petite sieste réparatrice. Son début de grossesse lui a été difficile physiquement. Nous avions eu beaucoup de mal à ce que Linda tombe enceinte. Après beaucoup d'essais, c'est enfin arrivé. L'embryon avait tenu, et nous allions être parents d'ici 6 mois. Le soir même, Linda se sentit un peu nauséeuse. Elle avait faim. Alors je lui ai préparé un repas à base de steak grillé et salade de tomates. Puis nous nous sommes couchés. Ce fut la seule nuit où je n'ai pas entendu le bruit. Depuis ce fameux soir, il revient sans cesse. Le lendemain, Linda me fit remarquer qu'elle avait pris du ventre. Je lui ai répondu que c'était normal, le bébé allait beaucoup se développer dans les prochains mois. Plus ça allait, plus elle était épuisée. Nous venions d'aménager dans cette résidence pavillonnaire privée depuis 4 mois. Tous nos voisins étaient gentils et serviables. Le cadre de vie dans cette résidence était idyllique. Un décor de rêve, une maison spacieuse et luxueuse. La vie parfaite, quoi. Enfin, jusqu'à ce que j'entende le bruit, du moins. Ce bruit sourd, comme étouffé. La deuxième fois que je l'ai entendu, Linda n'était pas encore réveillée. C'était comme un petit grattement, très léger. Un grattement fait par un petit animal. Le bébé de quelque chose de plus gros. J'ai vite fait le tour de la maison, pour voir d'où ça pouvait bien venir. Un coup à la porte me stoppa dans mes recherches. C'était Marc, le voisin de droite, qui venait prendre des nouvelles de Linda. Je l'ai invité à boire un café et nous avons bavardé toute l'après-midi. Le lendemain matin, c'est Tom, un autre voisin célibataire qui nous apportait un gâteau pour le goûter de Linda. C'était super sympa de sa part, mais moi, ça me gênait à chaque fois. Oui, il nous apportait tous souvent des trucs à manger depuis notre installation. Trop souvent, peut-être. Mais bon, comment leur en vouloir? 2 jours plus tard, le bruit a repris. Il devait être 3 ou 4 heures du matin quand ça a recommencé. Un grattement un peu plus fort que les dernières fois. Je suis descendu dans la cuisine en essayant de ne pas réveiller Linda. Je me suis servi un grand verre d'eau et j'ai fait le tour des pièces une fois de plus pour trouver la provenance du bruit. Après plusieurs minutes, j'en conclus que ça venait du plafond. Et plus précisément du deuxième étage, de là d'où je venais. Lorsque je suis remonté dans la chambre, le bruit cessa. Le soir suivant, même situation. Même bruit entêtant, même grattement régulier. Je suis resté au deuxième étage pour faire le tour de la chambre d'amis, celle de notre futur enfant et de la salle de bain. Le bruit était de plus en plus fort, de plus en plus intense. Le truc qui grattait devait avoir plus de force. Même le bruit, le grattement en lui-même avait changé. Ça ressemblait plus à quelque chose qui grattait de ses ongles longs, une toile de velours ou un grand rideau de coton. Impossible d'en trouver la provenance. Je suis resté éveillé jusqu'à 6h du matin, heure à laquelle le bruit stoppa. Le lendemain, Marc est venu me voir à la maison, comme tous les 2 jours en ce moment. Faut vraiment pas que ça devienne une habitude parce que je vais très très vite devoir lui demander d'arrêter. Je commence à ne plus supporter ses visites fréquentes. Il a vu que j'étais épuisé, et il m'a demandé si tout allait bien. J'ai craqué, et je lui ai tout expliqué. Il m'a souri, et m'a révélé que l'ancien propriétaire était aussi parti à cause de ce bruit. Lui et sa femme durent quitter la maison car ils entendaient un bruit semblable à ce que j'entends tous les soirs à présent. Il m'a parlé d'un autre voisin, dans un autre pavillon, qui lui aussi devait subir cette même nuisance sonore. Par contre, lui avait trouvé d'où venaient les grattements. Il ne m'en dit pas davantage et partit pour rentrer chez lui, l'air perplexe. J'ai trouvé son comportement très bizarre. Ça fait maintenant 8 mois que nous sommes dans la maison. Linda arrive presque à terme. Moi, je ne dors plus depuis 3 mois. Le grattement est de plus en plus fort et intense qu'il ne l'a jamais été. Toujours impossible de savoir d'où il vient. J'ai fait des trous dans les murs du deuxième étage pour en localiser la source, mais je n'ai rien trouvé. Absolument rien. Je commence à perdre la tête, et le manque de sommeil n'arrange rien. Linda, elle, est en pleine forme, et c'est ça l'essentiel. Marc, Tom et David lui apportent des choses à manger, presque tous les jours. J'ai essayé de leur dire de ne plus venir, mais Linda m'a dit que j'étais horrible avec eux, et qu'ils étaient tellement adorables, que j'avais tort, et qu'elle me ferait la vie dure si je l'empêchais de voir les seules personnes si proches de nous. Ce matin, il s'est passé quelque chose de très étrange. Marc est venu, comme tous les jours, frapper à notre porte. Je n'ai pas voulu lui ouvrir, j'en ai plus qu'assez de voir sa tronche de voisin trop sympa et collant. Il tenait une cage en fer dans la main droite. Un cube, grillagé, de 50 cm sur 50. Comme personne ne lui a répondu, il a laissé la cage devant ma porte. J'ai attendu qu'il parte et je suis allé voir la cage. Dessus, il y avait posé un post-it avec un message. « Voilà pour toi et Linda. Vous allez en avoir besoin très bientôt. Les grattements vont cesser. Vous devez vous préparer. » J'ai jeté le morceau de papier à la poubelle et j'ai caché la cage dans la remise derrière la maison. Linda était à son dernier rendez-vous chez son échographe, un autre habitant de la résidence, lui aussi veuf. Elle est rentrée vers 19h30 et nous avons dîné. Elle est montée pour se coucher. J'ai repensé à la cage. Je n'ai pas voulu lui dire pour ne pas la stresser ou lui faire peur. 2 heures après, je suis allé me coucher près d'elle. Après 10 minutes, les grattements ont repris. Ils étaient plus forts que d'habitude. Je les entendais très clairement à présent. J'en ai déduit que ce qui grattait avait réussi à enlever plusieurs couches de sa cachette. Il allait bientôt sortir. Je me suis approché de Linda pour me serrer contre elle. C'est là que j'ai compris d'où venait le bruit. Là, tout près de moi, je pouvais entendre et sentir ce foutu grattement qui, j'en étais sûr à présent, venait du ventre de ma femme. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Linda n'était plus là. Ils avaient dû s'en débarrasser. Sur la table du salon, il y avait l'échographie. Ça fait 2 jours que je suis assis dans le sofa, 2 jours sans bouger à regarder les photos de l'intérieur du ventre de ma femme. Ça fait 2 jours que je fixe les cornes et les tentacules. Il faut que je reprenne mes esprits et que j'aille chercher la cage dans la remise. Marc m'a tout expliqué. Il est justement devant chez moi avec les autres voisins. Ils m'attendent devant la maison. Nous devons accueillir les nouveaux, Sam et Amélie. Elle en est à son 2e mois de grossesse. Plus que 2 avant son arrivée. Avant la venue du grand légendaire. Notre maître à tous, celui qui dort sous nos pieds. Vous venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, enregistré, monté et produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Ça donnera au podcast plus de visibilité. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de leur sortie sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts telles que Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox, Overcast ou encore. Vous pouvez aussi me laisser une note et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je dois vous avouer que ça fait toujours plaisir. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Podcast Creepy Story et sur Instagram, Dan the Creepy. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec des histoires qui ne vous laisseront pas, je l'espère, fermer l'œil de la nuit.